Si vous voulez bien vous asseoir, regagnez vos places. Nous allons démarrer.
On vous enregistre.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux. Remercier la municipalité de Carbonne et son maire qui nous octroie la salle pour les conférences trimestrielles que nous faisons sur Carbonne. Et remercier aussi Ciné Carbonne qui nous permet d'intervenir à l'intérieur de son festival. Un petit mot sur ceux qui ne connaîtraient pas. La Pupenvol, c'est une association qui a pour but de diffuser par le biais de conférences la connaissance, des informations. Ce sont des conférences gratuites, mais vous pouvez adhérer à la Pupenvol si vous le souhaitez. Ça vous permettra d'être au courant de toutes les conférences, d'avoir les mails d'information, de pouvoir participer à l'AGM, de pouvoir aussi proposer des thèmes de conférences, si vous en avez, si vous avez des sujets qui vous intéressent et si vous êtes vous-même une personne qui pourrait faire office de conférencier. À propos de conférences, la prochaine aura lieu à Montesquieu le 30 de ce mois, 30 mars. Et le thème est le nucléaire et société. Et cette conférence. Arieux, pardon. Merci. Elle aura lieu à Arieux, c'est Nucléaire et Société. Et cette conférence sera faite par Jean-Jacques Delfour. Une précision quant à l'organisation de la soirée. Il y a la conférence qui durera environ trois quarts d'heure, qui sera suivie d'un quart d'heure, un quart d'heure, 20 minutes maximum, de questions. Questions auxquelles. Madame Roumiguier répondra volontiers. Et ensuite, il y aura un repas partagé dans le hall. Un repas partagé auquel vous êtes tous convidés. Après le repas partagé, il y a un film d'animation qui est projeté dans le cadre du Festival de Ciné Carbonne. C'est Anomalisa. Alors, je suggère aux personnes qui voudraient suivre, voir ce film, pendant le repas partagé, de prendre leur place, leur billet, de façon à être sûr de pouvoir voir. Passons donc à la conférence. Alors, conférence, le thème, c'est Grandeur et misère de la vie affective et sexuelle, avec Elisabeth Roumiguier, sexologue, sexothérapeute, enseignante en sexologie à la faculté de médecine de l'université Paul Sabatier. À Toulouse 3. Alors pourquoi inviter une sexologue ce soir comme conférencière avant la projection du film Anomalisa ? La sexologie étudie tout ce qui concerne la sexualité humaine, son histoire, sa sociologie, sa biologie, sa physiologie, sa psychologie, ses interrelations avec la culture, son aspect médical, ses liens avec la santé, son rôle dans la survie de l'espèce, sa place dans les relations humaines. C'est justement parce que la sexologie traite de ces sujets qu'elle fait le lien avec le film qui va suivre. Voilà une présentation très succincte de la raison de l'intervention de Elisabeth Roumiguier dans la conférence, par la conférence qu'elle va faire. Je vais lui laisser la parole.
Bonsoir. Alors, j'ai entendu des personnes qui s'inquiétaient de savoir si elles allaient entendre et qui ajustaient, s'ils allaient se mettre devant, plutôt au milieu ou plutôt derrière. Donc je pense que là, le volume est suffisant. Voilà. Et il faut que je fasse attention de ne pas trop m'approcher. Voilà. Voilà. Alors, d'abord, un petit mot sur le titre de cette conférence. Ça m'est venu en sortant du film d'animation que vous allez voir ce soir, Anomalisa, parce que je me suis dit quand même, si je fais une conférence qui est en lien plus ou moins avec le film, il faut qu'au moins j'aille le voir. Et voilà, c'est ce qui m'est venu. Et en fait, je me suis rendu compte que ça venait du sous-titre d'un recueil écrit par Pascal, qui Les pensées de Pascal. Et Les pensées de Pascal, ça a comme sous-titre Grandeur et misère de l'homme. Voilà. Et voilà ce que m'a inspiré ce film, qui, à mon avis, parle d'amour, de sexe et de folie. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le film et je ne vais pas dévoiler le film, ce n'est pas le but. Mais c'était pour vous expliquer d'où venait ce titre qui m'est venu. Alors, en fait, ce soir, on va partir d'une question. Une question simple, finalement, c'est comment parler de sexualité, qui est un sujet vaste et complexe. Et je me suis donné comme objectif, alors vous me direz si à la fin j'ai atteint mon objectif ou pas, je me suis donné comme objectif de proposer une lecture originale des questions de sexualité. Voilà. Alors vous me direz, quand on ira manger, si vous avez trouvé que c'était une lecture originale ou pas, et si vous avez à émettre des propositions pour que peut-être la prochaine fois ça soit encore plus original. Alors, quelque chose de très important à dire, dans notre société, la sexualité reste un sujet tabou. Une société véhicule des histoires, véhicule un passé, et il se trouve que le résultat de notre histoire, de l'histoire de notre société, fait que la sexualité est un sujet tabou. Et comme tout sujet tabou, c'est pas facile d'en parler. Voilà. Donc, comme c'est pas facile d'en parler, on va essayer de voir de quoi on parle quand on parle de sexualité. Et effectivement, de quoi on parle ? Alors, je vais vous donner une petite minute pour que, dans votre tête, vous essayez de faire venir des mots. Alors, pour qui c'est plus facile, vous pouvez prendre un petit papier et noter sur un petit papier les mots qui vous viennent comme ça, spontanément, à l'esprit, quand on vous dit « sexualité ». Voilà, silence pendant une minute, si c'est plus facile, vous écrivez. Sinon, vous laissez venir tranquillement dans votre tête quelques mots. Une conférence silencieuse. Alors, je ne vais pas vous demander de dire les mots que vous avez trouvés. En revanche, vous allez les confronter à un autre, enfin à une image qui va représenter des mots qui ont été trouvés, qui ont été écrits, qui ont été pensés, qui ont été très spontanément, comme je viens de vous le faire, c'est comme si on faisait le tour de la salle et que j'aille inscrire sur mon diapo tous les mots que vous avez trouvés. Et voilà, un groupe d'adultes qui ont entre 25 et 60 ans, un groupe d'une vingtaine d'adultes, et la question qui leur a été posée, la sexualité, qu'est-ce que c'est ? Et en une minute, vous posez les mots sur un papier, et après, on récolte les mots. Voilà, encore une minute de silence pour pouvoir prendre connaissance de ces mots. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en termes de registre de langage, C'est surtout des mots du registre soutenu et courant. Hein. Ce qu'on retrouve souvent quand on demande à des adultes de donner des mots autour du mot sexualité. En revanche, la semaine dernière, j'étais dans un collège dans le Gers en 5e, et là, je peux vous dire que des mots soutenus et courants, il n'y en avait quasiment pas. C'était que du registre familier, voire très familier. Il y avait du soutenu aussi, parce que on se souvenait vaguement du cours sur la reproduction, voilà. Donc, pour vous dire que par rapport à ce qu'on disait précédemment, que la sexualité était un sujet tabou, effectivement, quand quelque chose est tabou, on va utiliser des chemins de traverse pour pouvoir nommer ce qui est interdit de nommer, hein, ou ce qu'on a peur de nommer. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ces mots, qui sont des représentations en fait que chacun a mis à partir de la sexualité, la question, quand on veut étudier la sexualité humaine, il va falloir passer, et comment on va faire ? Il va falloir, et comment on va le faire, passer d'un sujet soumis aux représentations de chacun à un sujet d'étude, hein, pour pouvoir étudier, par exemple, prendre l'alimentation comme un sujet d'étude. Si je vous dis alimentation, je vais penser, si je me dis alimentation, je pensais à ce que je mange, comment je digère. Mais il va falloir que je fasse une étape pour passer à l'alimentation comme sujet d'étude. Ben pour la sexualité, c'est pareil. Hein? Et autrement dit, c'est comment passer de l'individuel au collectif. Comment passer de l'individuel au collectif? Et deuxième chose aussi qui va être très importante quand on étudie un sujet, c'est est-ce que ce que j'ai vu d'un point de vue collectif, d'un point de vue plus global, ça peut revenir à l'individuel. Hein? Tout l'intérêt de la recherche et d'étudier un sujet, c'est de pouvoir faire ces allers-retours entre l'individuel et le collectif et l'individuel. Alors, comment faire? Eh bien, ce que je vais vous proposer, alors il y a plein de manières de faire, mais pour ce soir, on est dans un temps assez limité, donc ce que je vous propose, c'est de décomposer les différentes fonctions de la sexualité. Quelles sont les fonctions que peuvent prendre la sexualité? Tout en sachant que la sexualité, ça se construit tout au long de la vie, hein, et que, en fonction des âges de la vie, à la fois les représentations et les fonctions peuvent se transformer, être présentes, pas présentes, hein. Voilà, on va voir, vous allez comprendre. Alors, les différentes fonctions de la sexualité. Ben, quelles fonctions? On va parler d'une fonction... Pardon. Quelle fonction? Moi, j'ai la deuxième diapo, alors j'avais l'impression que vous l'aviez déjà. Alors, première fonction, enfin, première, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, hein, puisqu'on on va ratisser large sur toutes les fonctions que peuvent avoir la sexualité. Donc on va parler d'une fonction identitaire. Effectivement, c'est bien la sexualité qui va nous donner une identité sexuelle. Hein. Important, définition et qu'on sache bien de quoi on parle quand on dit identité. L'identité, c'est le fait pour une personne d'être un individu. Voilà. Pour moi, je suis Elisabeth. D'accord ? Mais ça, ce n'est qu'une partie de l'identité. L'autre partie de l'identité, et pour faire un tout, pour vraiment me retrouver dans une identité et bien m'identifier, c'est pour moi d'être un individu donné et aussi d'être reconnu comme étant Elisabeth. Hein ? Dans l'identité, il y a aussi un aller-retour. Hein ? Il y a comment je m'identifie et pour compléter et pour me donner mon identité pleine et entière, j'ai besoin de l'autre pour m'identifier aussi. D'accord ? Voilà. Donc quand on parle d'identité sexuelle, on parle à la fois de la sexualité qui va bien nous donner une identité de sexe biologique. Hein ? Alors je vous passe les gènes, les chromosomes, les hormones, voilà. Ça, c'est ce qui se construit aussi tout au long de la vie, hein, dès la conception. Une identité de genre, alors là, la notion d'identité de genre, c'est le sexe social, c'est-à-dire la manière dont je m'identifie en tant qu'homme, en tant que femme, hein, et la manière dont je me perçois et dont mon environnement me perçoit. Hein, je vous rappelle ces deux niveaux, en tant qu'homme, en tant que femme, dans ma féminité, dans ma masculinité. Ensuite, dans l'identité sexuelle, on va retrouver aussi à quoi correspondent chaque sexe dans une société donnée, comment cette société identifie quelqu'un qui a tel métier, quelqu'un qui fait telle chose, tel teint, qui s'habille de telle façon. Et dans la notion d'identité sexuelle, il va y avoir aussi la dimension de l'orientation sexuelle. Hein. Qui j'érotise ? Par quel type de personne je suis attirée ? D'accord ? Ce qu'on va appeler l'orientation sexuelle. Donc, c'est bien, vous voyez, dans l'identité sexuelle, dans cette fonction identitaire, hein, on a un tout, on a plusieurs dimensions, plusieurs choses, et on peut s'identifier chacun et être reconnu par les personnes qui nous entourent dans cette identité sexuelle ou pas. Hein, parce qu'avec la sexualité, on va voir qu'il y a aussi les interactions qui vont faire qu'à un moment donné, moi j'arrive ici, je vous dis je m'appelle Elisabeth, et avant d'arriver sur l'estrade, tout le monde m'a salué en me disant bonjour Marc, bonjour Marc, bonjour Marc. D'accord ? Donc moi je m'identifie comme étant Elisabeth, et les personnes que je rencontre m'identifient comme étant Marc. Donc là il va y avoir une petite difficulté pour moi, parce qu'il y a une différence entre la manière dont je m'identifie et la manière dont les autres m'identifient. Alors, maintenant, fonction identitaire, autre fonction que peut prendre la sexualité, une fonction érotique. Hein ? Ce qu'on peut appeler aussi fonction d'excitation sexuelle, fonction érotique, je l'ai appelée fonction érotique parce que je trouvais que c'était plus global. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans la fonction érotique ? Eh bien, c'est toute la physiologie, hein, de l'excitation sexuelle. Donc, les cinq sens, l'imaginaire, ce qu'on appelle les fantasmes, hein, comme source d'excitation sexuelle, qui peut prendre la forme d'une source d'excitation sexuelle. Le cerveau. Alors, cerveau, j'ai mis cerveau, mais en fait, pour être plus juste, c'est tout ce qui est du système nerveux central, tout ce qui est de la volonté. Hein. A contrario, le système nerveux autonome, qui ne dépend pas de la volonté, hein, système nerveux autonome, c'est tout ce qui est des réflexes, hein, tout ce qui est de l'adaptation à un environnement. C'est pas moi qui dis à mon cœur « bah », hein, c'est pas moi qui dis à mes poumons « respire ». C'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Donc système nerveux central, système nerveux autonome, tout ça c'est en jeu dans la fonction érotique. Le désir sexuel, hein, l'envie, pas envie, voilà, tout ça c'est en lien aussi avec cette liaison système nerveux central, système nerveux autonome et environnement. L'excitation sexuelle, avec les organes qui sont directement concernés par l'excitation sexuelle, un petit rappel, le pénis chez l'homme, le clitoris chez la femme, hein, le clitoris qui fonctionne exactement comme le pénis, hein, avec toute cette physiologie, alors là où les systèmes nerveux autonomes sont très 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 importants, hein. C'est pour ça d'ailleurs que quand par exemple il y a un accident au niveau de la moelle épinière, c'est dans la moelle épinière que siège le système nerveux autonome, accident, traumatisme au niveau de la moelle épinière, le système nerveux autonome peut être abîmé, voire complètement détruit, et là il va y avoir des répercussions directes sur la possibilité d'avoir une excitation sexuelle, ou en tout cas de pouvoir faire fonctionner ses cinq sens, son imaginaire, en lien avec ses organes génitaux. Deux organes, un organe aussi très important pour l'excitation sexuelle, mais plus pour tout ce qui est de l'éjaculation et de l'orgasme. Alors quand on parle avec une sexologue, là ça y est, on commence à parler vraiment direct du sexe. Hein. Ça, c'est... Alors, éjaculation, orgasme, donc là il y a un organe qui est directement responsable de l'éjaculation, du réflexe d'éjaculation, chez l'homme la prostate, et chez la femme, l'orgasme, directement lié à des cellules prostatiques, en fait, hein, ce qu'on appelait avant, enfin, quand on, au début des découvertes, des connaissances, on a dit quelque chose qui s'appelait le point G, et en fait, on s'est rendu compte, depuis les dernières études qui sont faites sur la physiologie de l'excitation sexuelle et la physiologie de l'orgasme, que ce sont des cellules prostatiques, hein, qui sont responsables du réflexe orgasmique chez la femme. Et au lieu de dire point G, on pourrait dire zone prostatique, parce que ce sont plusieurs cellules prostatiques qui ne sont pas regroupées dans un seul organe comme chez l'homme, mais qui sont réparties au niveau vaginal. On verra à la sortie comment ça se passe exactement. Alors, on continue. Donc, fonction érotique. Hein. Vous comprenez bien que je suis obligée de passer. Hein, c'est là, il y en a pour une année d'études hein, au diplôme. Alors, tout à l'heure, Gilles disait que j'enseignais à la fac de médecine. En fait, j'enseigne dans un diplôme universitaire de sexologie. Et là, on va ouvrir un nouveau diplôme qui s'appelle Handicap et sexualité, justement pour étudier de plus près tous les types de handicap et leurs répercussions sur la sexualité dans toutes les fonctions de la sexualité. Vous voyez que la sexualité, ce n'est pas que la fonction érotique. On a vu la fonction identitaire. Maintenant, on a vu la fonction érotique. Et maintenant, autre fonction que peut prendre la sexualité, la fonction de reproduction, qui est directement en lien avec la survie de l'espèce. Alors ça, on va pas trop s'étendre, hein, on voit bien ce que ça veut dire. Voilà. Ensuite, autre fonction qui va être en lien avec l'envie. Hein, parce que vous allez voir, c'est une fonction qui nécessite quand même un effort. La fonction relationnelle. Hein, c'est bien la sexualité, enfin, il y a dans la sexualité cette fonction relationnelle. Hein, on va se mettre en relation, ou pas, mais bon, là, on va dire que ça y est, on a envie de faire l'effort, donc on va se mettre en relation avec une autre personne ou avec plusieurs autres personnes, et on va créer au sein de cette fonction relationnelle peut-être une relation amoureuse. Donc c'est là toute la dimension affective de la sexualité qui va se mettre en jeu, hein, pour créer une relation amoureuse. On va activer nos sentiments, on va activer ce besoin d'attachement, hein, on va activer tout ce qui se met en place qui va faire que deux personnes vont s'attacher. D'accord ? Donc ça c'est la relation amoureuse. La relation érotique, hein, on va mettre en relation nos deux fonctions érotiques. D'accord ? Donc, quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. Et puis, peut-être que si la relation s'installe, eh ben, il va falloir se mettre en relation quotidienne. C'est là que ça commence à se compliquer, quelquefois. Hein. Et puis, peut-être communiquer. Voilà. Et peut-être communiquer de façon verbale, mais aussi de façon non-verbale, hein, de façon gestuelle, de façon... toutes les façons qu'on a de communiquer de façon non-verbale. Alors quelquefois, le non-verbal nous échappe un petit peu. Ah non, c'était pas ça que je voulais montrer avec mon corps. Hein. Et le verbal aussi, quelquefois, peut nous échapper. Voilà, alors... on arrive à la cinquième fonction que peut prendre la sexualité. Je vous ai dit, ça peut et ça peut ne pas. D'accord ? C'est toutes les fonctions qu'on peut... je vous rappelle, l'objectif, c'est de décortiquer un petit peu et d'en faire un objet d'étude, un sujet d'étude. Et peut-être un objet de désir. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, dernière fonction, la fonction sociale de la sexualité. Parce que pourquoi une fonction sociale? C'est qu'en fait, la sexualité va prendre sa place dans la société. Dans une société donnée, la sexualité prend sa place, étant donné qu'il y a tous ces aspects relationnels, érotiques, identitaires, forcément que ça interagit avec la société, et du coup, ça interagit avec la culture. Alors, la sexualité prend sa place dans la société, et la société va aussi réguler, va contrôler, va regarder ce qui se passe dans la sexualité, et va donner des cadres, plus ou moins éloignés, plus ou moins proches, pour organiser, pour réguler, pour contrôler la sexualité, ou en tout cas son expression. Donc, il va y avoir tous les, dans cette culture-là, des lois, des normes qui vont se mettre en place, des stéréotypes, des codes, par exemple, des codes de séduction, des codes... Et je travaille beaucoup avec les personnes qui ont des handicaps mentaux, en particulier des déficiences intellectuelles. C'est très compliqué, les codes, quand on est déficient intellectuel. Hein, parce que un code, c'est très, ça fait appel à un système cognitif très élaboré. Et quand on n'a pas un système cognitif élaboré, on n'accède pas au code. Et quand il va falloir se mettre en relation avec quelqu'un, si on n'a pas les codes, souvent, ça ne marche pas très bien. Alors, le système de valeurs, le système de valeurs de la société et le système de valeurs après de chaque personne, de chaque éducation, de chaque... L'histoire aussi. L'histoire va avoir aussi une place très importante par rapport à la sexualité. Les religions. Les religions aussi vont avoir un rôle de contrôle, de régulation de la sexualité. Et voilà. Et tout ça donne justement cette fonction, enfin, fait que la sexualité peut prendre toutes ses fonctions. Alors, maintenant, voilà, là c'est un petit peu décortiqué, je vous ai dit que c'était un sujet vaste et complexe. La complexité, ça veut dire que toutes ces fonctions interagissent les unes avec les autres. Et donc, ces fonctions forment un système. D'accord ? Un système complexe que je vous propose là, dont je vous propose ce soir une forme pour accéder à cette complexité, à ces interactions. Donc là, vous reconnaissez l'identité, la fonction identitaire de la sexualité, masculinité, féminité, la fonction érotique dont on a parlé, fonction érotique de la sexualité. Donc là, à gauche, c'est un individu. À droite, un autre individu. On peut en rajouter, si vous voulez. Ces individus-là vont interagir, mais d'abord, on va s'intéresser à l'individu de gauche, si vous voulez bien. Donc cet individu, il a construit une identité, sa sexualité a une fonction érotique, il a aussi peut-être cette notion d'envie, d'envie d'aller construire une relation, de désir sexuel. Toute la dimension affective dont on a parlé tout à l'heure, de la sexualité, qui va permettre de mettre en place une relation amoureuse peut-être, un entre-deux amoureux. Et cet individu-là, il a forcément une personnalité. Une personnalité, j'entends un caractère, une façon d'exprimer ses émotions, un système de valeurs lié à son éducation, à ses expériences. Il a une manière de penser. Il a aussi un corps. Et tout ça, ça forme la personnalité. Et cette personnalité va forcément interagir avec toutes les composantes de sa sexualité. En fonction de sa personnalité, notre fonction érotique, notre fonction affective, va prendre une couleur, va faire qu'on est un individu différent d'un autre individu, encore différent d'un autre individu. Maintenant, on va s'intéresser à l'individu de droite. Ben, l'individu de droite, il a aussi une sexualité avec toutes les fonctions que peut prendre sa sexualité, en fonction aussi de l'âge qu'il a, de l'expérience qu'il a. Donc, pareil, une identité sexuelle, du désir, pas de désir, une fonction érotique et une manière d'être en amour. Hein, c'est ce que disent les Québécois, la manière d'être en amour. Une identité affective. Voilà. Alors, si on crée une relation, si ces individus créent une relation, hein, c'est tout l'espace qu'on a au milieu, la relation, eh bien ces individus vont peut-être construire... Alors par quoi on commence? Un plan cul, hein, alors là on va faire un entre-deux érotique. Excusez-moi, la semaine dernière j'étais avec des cinquièmes, alors ça m'a envahi l'esprit et du coup si je ne me retiens pas, je parle avec du vocabulaire familier. Alors il faut que je me retienne. Entre-deux érotique, peut-être une communication verbal, non-verbal peut-être, mais déjà non-verbal s'il crée un entre-deux érotique. Peut-être un entre-deux amoureux, qui sait. Peut-être un entre-deux quotidien, hein, on a vu tout à l'heure, hein, dans la notion de quotidien. Voilà, et peut-être une relation verbale, une relation non-verbale, voilà. Vous voyez, comment on va pouvoir, et ça, c'est pas fini, c'est qu'en fait ça va aussi interagir avec tout l'environnement. On a dit la fonction sociale de la sexualité. Ces deux individus vont interagir, la sexualité de ces deux individus ou la sexualité de chaque individu va interagir avec son environnement. Donc la loi, on l'a dit tout à l'heure, le travail, la famille, les événements de vie, la culture dans laquelle on baigne, ou dans laquelle on a été éduqué. Et puis en fonction des endroits où on va aller vivre, on va interagir différemment, la sexualité va interagir différemment avec la culture, la religion, la vie sociale. Il peut y avoir aussi des événements de vie qui peuvent interagir avec toutes les composantes de la sexualité, qui peuvent interagir avec chaque individu, chaque relation. Quelquefois, des événements de vie vont entraîner des effets sur l'entre-deux amoureux. Des événements de vie, par exemple comme une maladie, peuvent venir créer des interactions avec la fonction érotique. Voilà, j'ai appris dernièrement que j'étais séropositive pour le VIH. Et comme dans ma sexualité, alors quand je dis je, c'est pas moi, hein, c'est générique. Hein. Dans ma sexualité, j'ai absolument pas l'habitude de mettre des préservatifs. D'accord, je me suis toujours débrouillée, d'ailleurs. Voilà. Et ça me semble complètement inconcevable. Et du coup, ça a des effets sur mon désir sexuel, parce que du coup, si j'ai plus de désir, je vais être tranquille. Je ne serai pas dans cette difficulté de rentrer dans un entre-deux érotique. Voilà. Vous voyez, comme chaque événement, chaque chose qui vient de l'environnement peut créer des interactions et avoir des effets sur toutes les composantes de la sexualité, y compris la composante relationnelle, la fonction relationnelle de la sexualité. Voilà, alors... Un petit peu, hein, je vous balance tout ça. Donc, on va avancer, on va même pas tarder de terminer, parce que ce qui va être intéressant, c'est peut-être aussi les interactions qu'on va créer entre nous. Et je vais, pour clore cette présentation, dire un petit mot sur le film Anomalisa. Et peut-être pour vous l'occasion de le regarder, ce film, avec une grille de lecture sexologique. Parce que je vous ai présenté ben justement comment on va étudier la sexualité à partir de modélisations comme ça, et avec l'intérêt qu'on puisse passer de l'individuel au collectif et du collectif à l'individuel, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ce personnage, vous verrez, hein, il tombe progressivement, alors on le voit tomber progressivement dans une espèce d'ennui, de misère existentielle, de perte d'identité. Il ne se reconnaît plus. Hein. Lui ne se reconnaît plus et les autres ne le reconnaissent pas comme il est. D'accord ? Donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la notion d'identité. Et au travers d'une quête sexuelle, il va chercher à fuir cette misère et la magie va opérer. Il va se vivre grandi, hein, grandeur et misère. Vous avez vu, dans la conclusion, j'arrive à revenir sur vous. Il va se vivre grandi par une expérience sexuelle. En revanche, donc là c'était pour clore, mais on va finir pour ouvrir. Et pour ouvrir, eh bien, ce sentiment de grandeur, ça va être là la question, et je vais vous laisser dans le suspense. Tant que vous n'aurez pas vu le film, vous ne saurez pas. Et pour ouvrir, eh bien, ce sentiment de grandeur va-t-il suffire à redonner du sens à sa vie ? Je vous remercie. C'était...
Merci Elisabeth. On va passer maintenant aux questions. Alors, qui veut poser la première question ?
Moi, je vais simplement faire une remarque. Dans les mots qui nous ont été présentés, soit je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est un mot très important, c'est le respect.
Ok. Voilà. Et bien ce groupe-là, hein, c'est pas du tout, vous avez bien compris, hein, c'est un exercice qui a été soumis à un groupe de personnes adultes. Et il se trouve que l'alchimie de ce groupe-là n'a pas vu ce mot-là venir. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'en fait on arrive chacun avec sa représentation de la sexualité, avec des valeurs, qui nous appartiennent. Et la difficulté pour pouvoir étudier la sexualité humaine, c'est de pouvoir passer de l'individuel au collectif. Voilà. Et de voir et d'englober aussi tout ce qui est de la dimension du système de valeurs, qui va être très important dans l'étude de la sexualité humaine. Merci. Mais oui, justement, en fait, bien souvent, hein, c'est l'expérience que j'ai des consultations, là, la personne, finalement, si on s'attache que à l'aspect de comment je m'identifie moi, si j'étais seule au monde, il n'y aurait pas de problème. La difficulté, c'est quand je me mets au regard, hein, et comment les autres m'identifient. Et c'est quand il y a une différence entre la manière dont moi je m'identifie et la manière dont les autres m'identifient que ça va créer une difficulté, voire même une souffrance. Hein, parce que je vous disais, hein, pour moi c'est très compliqué. Et d'ailleurs j'ai eu du mal à commencer ma conférence parce que j'ai rencontré 10 personnes qui m'ont dit bonjour, bonjour Marc. Et quand je suis arrivée sur la scène, moi je m'appelle Elisabeth, voilà, vous voyez ? Donc, vous comprenez la difficulté, hein, le conflit que ça peut créer à l'intérieur de soi, voire même à se dire, mais j'ai un problème, je suis folle, je suis fou, enfin voilà, hein, ça peut aller jusqu'à la folie. Hein, alors, il y a des formes de maladie mentale qui entraînent, mais c'est lié à la maladie, ce trouble identitaire, hein, parce que c'est dans mon cerveau que je m'identifie d'une certaine façon, et mon environnement ne m'identifie pas comme ça fonctionne dans mon cerveau. Et il peut y avoir aussi une difficulté, simplement, que moi j'ai une perception, mais ça ne vient pas d'un dysfonctionnement de mon cerveau. Je sais que j'ai une construction qui m'a fait avoir cette identité-là, et ça ne correspond pas à l'identité que me donne les personnes que je rencontre.
Ça... La société, par contre, elle a besoin, entre guillemets, en tout cas la nôtre aujourd'hui, elle a besoin de dire madame, machin, ou monsieur, machin, mais le genre indéfini n'existe pas encore en France.
Voilà.
Les filles qui l'ont reconnu.
Voilà. Et c'est bien aussi pour ça que c'est important de ne pas oublier la fonction sociale de la sexualité, quand on l'étudie. Tout à fait, tout à fait. Autre chose,
question.
Oui. Donc, je voudrais dire une fois sur un terme qui peut être soit considéré comme une grandeur, le micro.
Il arrive.
Oui, alors moi, je voudrais revenir sur un terme qui s'appelle les pratiques libertines, où des fois on peut associer à grandeur ou à misère. Je voudrais savoir, est-ce qu'il peut y avoir des pratiques libertines sans forcément qu'on soit de l'addictif? Je voudrais savoir au niveau de la fonction sociale, comment ça s'inclut? Et je voudrais savoir si ça peut être un art de vivre, selon vous.
Alors moi, vous savez, j'ai un gros défaut, c'est que je suis clinicienne. Je ne suis pas moraliste ou sociologue, je suis clinicienne. C'est-à-dire que mon boulot, hein, c'est de partir de là où en est la personne.
Oui, je l'entends bien par rapport aux fonctions sociales, justement.
Voilà. Alors, si je prends la fonction sociale, c'est-à-dire que je vais prendre un pas de recul et je vais voir comment chaque individu, en fonction de sa sexualité, de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle, comment ses pratiques sexuelles, son orientation sexuelle, son identité sexuelle vont interagir avec tel type de société. Et effectivement, si la société juge, en fonction de sa culture, en fonction de ses principes, en fonction que le libertinage, c'est quelque chose qui ne va pas bien, voilà, plein de jugements qu'il peut y avoir, effectivement, là, la société va juger que ce ne sont pas des pratiques qui vont bien. D'accord ? En revanche, il peut y avoir globalement la société qui juge comme ça, et puis après, des groupes qui sortent de ce jugement, qui assument, entre guillemets, leur sexualité, parce qu'ils sortent des effets que pourrait avoir de la société, le jugement de la société sur leur sexualité. Et ils s'extraient de ce jugement en disant, bah moi ce qui compte, parce que mon système de valeurs, ce qui compte le plus, c'est le plaisir que j'ai à vivre, c'est le fait de m'épanouir dans mes relations avec les personnes, de lâcher le principe ou la valeur de fidélité et de pratiquer une sexualité où on n'est plus dans forcément s'attacher, avoir un sentiment de possessivité, voilà, où on est dans une sexualité où le principe de plaisir est le plus important. Hein. Je te donne du plaisir, tu me donnes du plaisir. Et c'est ça le plus important. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Vous me demandez mon jugement. J'ai pas de jugement, voilà. Hein? Moi, je vais passer du jugement à l'éthique. D'accord ? Hein? Quand on parle d'éthique. Hein? Une éthique, c'est pour, justement, par rapport à un comportement, voir un petit peu les tenants, les aboutissants. C'est se poser deux questions. Est-ce que c'est utile pour moi, pour les personnes avec qui je suis ? Et quelles conséquences ça peut avoir ? Là, on sort du jugement moral et on est sur vraiment comment ça fonctionne. Est-ce que c'est utile et quelles conséquences ça peut avoir. Et moi, si ça m'est utile, que ça m'épanouit, que ça me donne du plaisir, que ça me permet de créer des relations avec des personnes qui sont basées sur la simplicité, sur la bienveillance, ça m'est utile. Quelles conséquences ça peut avoir? Aucune, ce n'est pas interdit par la loi. Bon, peut-être que mes voisins ils vont mal me juger. Mais voilà, vous voyez, c'est en essayant de poser des questions comme ça qui sont très simples, ça permet de différencier le jugement moral, hein, et le jugement éthique d'un comportement. Et quand on travaille sur les comportements sexuels, c'est vraiment dans cette posture, ça c'est vraiment une posture sexologique. Madame.
L'enquête porte sur, j'ai vu, sur des adultes de 25 à 60 ans.
Oui.
Au-dessus de 60 ans, mais
pas. Écoutez, c'est super que vous posiez cette question parce que je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu as mis ce truc-là? Parce que c'est. Alors, c'est pas une enquête, hein. C'est quand je travaille, parce que je travaille comme thérapeute, et puis je travaille aussi à des formations ou alors à l'animation de groupes de parole. J'anime des groupes de parole en ESAT, pour des travailleurs qui sont handicapés. J'anime des groupes de parole en EHPAD, dans des établissements qui accueillent des personnes âgées, voire même très âgées. Et j'anime des groupes de parole, vous l'avez compris, aussi au collège ou au lycée. Et effectivement, il se trouve que j'ai pris... c'était des adultes qui travaillent une grosse association. C'est principalement des éducateurs et des soignants, le groupe des 25-60. Et c'est des actifs, d'où l'âge. Voilà. Mais j'aurais... Alors, ça me fait penser que la prochaine fois, une prochaine conférence, je prendrai... Mais après, ça pourrait... Ça... Le problème aussi, c'est la durée. Il fallait que j'arrive à trouver un truc. Mais j'ai aussi les mêmes choses quand de personnes qui vivent en EHPAD, de personnes âgées, des groupes de personnes âgées.
Entre
60 et 110 ans. Et en consultation, j'ai dans les consultants, des personnes entre 16 et 17, et la personne la plus âgée a 89 ans. D'autres questions ?
Non, j'ai pas besoin de micro.
Ah, vous avez une voix qui porte.
Tout à fait au début de votre conférence, vous avez dit c'est un objet d'étude.
Ouais.
Et puis après, sujet. Vous êtes repris, vous avez dit ah ben non, c'est un sujet d'étude. Alors, quelle différence vous faites entre objet et sujet ?
Alors, en fait, tout simplement, c'est ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Parce qu'en fait, la différence, honnêtement, je ne fais pas. Mais je me suis dit, objet d'étude, ça fait... D'ailleurs, je l'ai dit à un moment donné, ça fait objet de désir. Et donc, voilà. Donc, c'est simplement pour ça que je me suis reprise, parce que j'avais décidé... J'aurais pu très bien vous dire qu'on allait... comment on fait pour passer de la sexualité individuelle à un objet d'étude. Et j'ai écrit un sujet d'étude. J'avais pris cette décision-là, et tout d'un coup, mon esprit... a bifurqué, il a parlé d'objet d'étude, c'est pour ça que je suis revenue à ce que j'avais dit au début. Voilà. Faut pas aller chercher très très loin quelquefois, vous savez. J'ai l'air comme ça un peu intello, mais pas trop.
Une première remarque par rapport à la manière dont on peut vivre encore la sexualité aujourd'hui dans notre monde. J'ai constaté que sur les médicaments et sur les notices des médicaments apparaissait très rarement comme effet secondaire une problématique de sexualité. Alors, pour moi, ça montre à quel point on est encore très très coincé par rapport à tout ça et comment est-ce que ça peut être toujours effectivement un sujet tabou. Ça, c'était la première chose. La deuxième. C'est une question, il y a eu quand même une évolution très très importante par rapport à ce côté tabou entre, je dirais, la génération de nos parents et la nôtre, ne serait-ce que dans la manière dont on peut aborder ce genre de sujet avec nos enfants. On n'a pas vraiment, enfin moi personnellement, j'ai pas franchement vécu ça avec mes parents. À quelle période pensez-vous que ça s'est joué ? Est-ce que comme le disent certains, c'est 68 qui a vraiment tout chamboulé, ou est-ce que ça remonte à un autre moment, et qu'est-ce qui a pu avoir une incidence là-dessus ?
Alors, il y a deux questions. Pas comme les hommes politiques. Il faut que je reste centrée, parce qu'après, je pars... Alors, première question. Oui, effectivement, il y a... Si vous voulez, il y a quelque chose de très étonnant. c'est que chez les, tout ce qui est du corps médical, éducateur, enseignant, soignant en général, la sexualité reste très tabou, tout simplement parce que c'est absolument pas enseigné, hein, et ça n'est pas du tout pris en compte dans la construction des compétences de ces professionnels-là. Voilà. Et d'un autre côté, il y a l'industrie et le commerce du sexe qui se développent énormément. Et entre les deux, il y a un énorme écart. Voilà. Et vous avez tout à fait raison, au niveau des médicaments, il y a très peu d'études qui sont faites, et ça reste très vague. Hein. Par exemple, sur les antidépresseurs, on va vous mettre risque de baisse de libido. Voilà. Alors qu'en fait, très très clairement, les antidépresseurs ont des répercussions sur le réflexe d'éjaculation et sur la sensation d'orgasme. Hein. Et effectivement aussi sur le désir sexuel, mais en fait c'est plus la dépression qui a un effet sur le désir sexuel. Hein, parce que quand on est en dépression, on n'a plus aucune envie, même pas sexuelle. Et en fait, c'est la dépression qui a un effet sur le désir sexuel, et les médicaments vont avoir des effets sur la physiologie. Hein, je vous disais, il y a toute une physiologie de l'excitation sexuelle, du système nerveux central, système nerveux autonome et organes génitaux. Et le médicament va modifier, va avoir des effets par l'intermédiaire des neuromédiateurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais va avoir des effets. Et principalement, c'est la sérotonine qui est en jeu. Donc, et vous avez tout à fait raison, il y a très peu d'études. Par exemple, là, j'étais à Bordeaux sur une conférence sur apnée du sommeil et sexualité. Et en fait, on s'en rend compte que les apnées du sommeil ont des répercussions très importantes sur la sexualité, sur la fonction érotique, mais aussi sur les autres fonctions, hein, sur la fonction relationnelle aussi énormément. Et ça, il n'y a rien, aucune étude. L'asthme. Aucune étude, asthme et sexualité. Voilà. C'est tabou dans la société, mais c'est encore plus tabou chez les soignants. Les études de médecine, ça dure 8 ans à peu près. 2 heures d'enseignement de sexologie. Voilà. Vous voyez l'ampleur du tabou. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étendre. Ensuite, deuxième question. Ah oui, historiquement. Alors, effectivement, on a dit que l'histoire de la sexualité humaine... Alors, il y a plusieurs interprétations, hein, plusieurs visions. Malthus, fin du 19e en Angleterre, hein, qui est un médecin hygiéniste, qui s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de mortalité infantile chez les familles économiquement en difficulté et avec beaucoup d'enfants. Il a commencé à mettre en place de la régulation des naissances. Et puis, parallèlement à ça, il y a eu aussi les mouvements de femmes qui ont eu la nécessité, le besoin, l'envie de maîtriser un peu plus leur capacité à procréer. Et puis tout ça, vous savez, c'est comme toutes les évolutions des sociétés. Il y a plusieurs facteurs, en fait, qui viennent se mettre ensemble et qui vont faire qu'il y a des mouvements comme ça qui se font. Et c'est très en lien aussi avec l'individualisme, hein, parce qu'avant, si vous voulez, le principe où l'intérêt collectif est plus important que l'intérêt individuel. Et quand une société bascule, où l'intérêt individuel devient plus important que l'intérêt collectif, il y a des répercussions aussi sur... la sexualité, puisque la sexualité, on a vu, hein, qu'il y a différents, avait aussi une fonction sociale, et forcément va évoluer, ou en tout cas va prendre des formes différentes en fonction de l'évolution des sociétés. Et je pense que ça vient aussi avec la société industrielle du 19e siècle, et puis toute l'évolution au cours du 20e siècle. Je pense que c'est pas pour rien aussi toutes les guerres qu'il y a eu au XXe siècle, qui ont aussi eu leur rôle. Enfin voilà, il y a les recherches médicales, tout ça converge pour aller vers ce que vous venez de dire, qu'effectivement, la société, la sexualité devient moins taboue et on a de plus en plus de facilité à pouvoir en parler.
Oui, une observation qui reprend ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études sur les conférences avec Bambol et la sexualité, par exemple. Est-ce que ça modifie notre sexualité pour ceux qui suivent ces conférences? Plus sérieusement.
Là, je suis en train de monter un questionnaire pour faire une enquête nationale sur apnée du sommeil et sexualité. Donc peut-être qu'on pourrait aussi extrapoler et imaginer, voilà.
Tout à fait, merci. Mais aussi, par rapport à la sexualité tabou, moi j'avais cru comprendre, parce que je faisais quelques études, que le sexe tabou est une création, en fait, du 18e siècle et du 19e siècle, avec d'une part une influence de la religion, et d'autre part la mise en place de la bourgeoisie, et donc des problèmes de succession et de dévolution des biens. Et que ce sujet, la sexualité est devenue très tabou, ainsi que la structure familiale qui n'est pas plus bougée. Il semblerait qu'on parlait du sexe extrêmement librement, et peut-être on le pratiquait au XIXe siècle, au sein des classes populaires et laborieuses.
Alors là, honnêtement, je ne suis pas assez rentrée l'historique de l'évolution de la société, de la sexualité. J'en ai des grandes lignes, mais pas suffisamment détaillées et spécialisées pour pouvoir aller dans votre sens, pas aller dans votre sens. Voilà, c'est intéressant. Et je pense que il faudrait l'explorer. Vous savez, c'est comme quand on voit des choses très globalement. Comment on passe du collectif à l'individuel, de l'individuel au collectif. Après, de ce que vous venez de dire, de le décortiquer classe sociale par classe sociale, voilà, ça serait. Il faudrait soumettre ça à un étudiant en thèse d'histoire.
Vous avez évoqué les différentes fonctions de la sexualité.
Oui.
Mais vous n'avez repris comme misère que l'une d'entre elles. Pourquoi? Vous avez évoqué différentes fonctions de la sexualité.
Oui.
Mais vous avez, dans votre titre, vous parlez de la misère affective.
J'ai,
pourquoi vous avez pris une des fonctions comme...
Oui, alors, c'est parce qu'en fait, grandeur et misère de la vie affective et sexuelle. Voilà. Alors, j'ai hésité. Ce titre, je vous expliquais comment ce titre est venu. C'était par rapport à une référence à Pascal. C'est le sous-titre du recueil Les Pensées, Grandeur et misère de l'homme. D'accord. Et au départ, c'était Grandeur et misère de la sexualité. Et après, je me suis dit, ouais, mais si je dis sexualité, tout de suite, ça va être fonction érotique. Globalement, quand on parle de sexualité, on pense assez rapidement à la fonction érotique. Et j'ai eu peur que ça réduise trop. C'est pour ça que j'ai mis vie affective et sexuelle. Parce qu'effectivement, on va trouver de la grandeur et de la misère dans toutes les fonctions de la sexualité, avec quelquefois des sensations d'être tout gonflé, comme vous allez voir dans le film, et puis des moments où on est au plus bas, quoi. Voilà. Et on peut passer d'un moment à l'autre dans sa vie par ces différents moments.
Bien, si vous voulez, on va laisser une dernière question et puis on passera à des discussions plus libres autour du repas partagé. S'il y a une dernière question pour clore la série de questions, sinon on passera tout de suite au repas partagé.
Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a mis en appétit quand même.
Bien. Eh bien, nous vous remercions. Merci beaucoup pour cette conférence. Et je vous convie donc à côté. Et ceux qui veulent voir le film, pensez à prendre rapidement les billets dès que la pièce se reprend. Merci. Bonne soirée.
venais pour savoir enfin de quoi tu parlais. Tout ce temps que...
Oui.
J'entends ton nom.
Compréhensible.
Oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant. Ça montre différents trucs pour décortiquer le problème.
Ouais, effectivement. Pour
mieux le cerner plutôt qu'un tout indigeste.
Oui.
Par contre, je voulais juste demander.
Oui.
Qu'est-ce que tu appelles jugement moral? Parce qu'on n'a pas la même définition. Qu'est-ce que tu entends par là?
C'est tout ce qui est.
C'est juger, tu veux dire.
Bien mal. C'est bien, c'est mal. Mais ça peut être à partir du jugement. L'injurisme, voilà, c'est pas bien. L'abuser sexuellement, c'est bien. Là, c'est un point de vue. Du juriste, du représentant de la loi. Ça peut être en fonction de normes, parce que moi, j'ai dans la tête, et je suis juriste, je suis pas mal. Ça peut être en fonction de mon système de valeurs. Voilà, c'est ça que j'appelle le jugement.
Bon, on en reparlera quand on en reparlera. Je laisse la place. Oui, toi. Bonne soirée.
C'est vu ou pas?
Non.
Et
la libération, c'est vu.
Salut. T'as tout enregistré?
Oui.
C'est bien.
Et t'auras ça sur le
dans la boîte.
Site.
Dans la boîte. Parce qu'il y a une contre-planche de temps. Elles y sont toutes là en ce moment sur le site.
Presque. Il en manque quelques-unes, dont les miennes.